Bonjour, je suis actuellement avec Fred Canvet, l'auteur du blog Conseil Marketing, donc l'un des plus gros blogs francophones sur le web marketing. Donc je voulais t'interviewer, ça fait un moment que je te suis, qu'on se suit sur Twitter et que je visite ton blog, etc. Donc voilà, je pense que tu as des choses à partager avec les commerçants, donc vraiment le cœur de cible de mon blog. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore, s'il te plaît?
Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Frédéric Canevet. Donc, je suis web marketer, product manager, et pendant de nombreuses années, j'ai travaillé également dans l'e-commerce. J'ai débuté dans les années 2000. C'était en 1999 que j'ai commencé dans le premier site e-commerce dans lequel j'ai travaillé. C'était assez marrant. C'était vraiment le début. À l'époque, donc on était concurrent de Rue du Commerce, une petite société qui venait de se créer et qu'on a essayé de rattraper pendant de nombreuses années. Donc c'était une belle aventure, c'était le début de l'e-commerce en France, et c'est vrai que depuis ça a bien évolué.
Oui, c'est clair, c'est un peu partie des dinosaures du e-commerce, Rue du Commerce.
Oui, à l'époque, oui, c'était vraiment au début, il y avait tout à créer. On s'est bien amusé, c'est vrai que là maintenant, tu vois que les techniques évoluent de plus en plus, et c'est vrai que on arrive vraiment à une spécialisation dans tous les métiers du marketing. Par exemple, là, tu vois, il n'y a pas très longtemps, on m'a encore demandé, tiens, est-ce que tu connais un spécialiste AdWords? Est-ce que tu connais un spécialiste Facebook Ads? Est-ce que tu connais un spécialiste référencement? Et comme toi, hein, il vaut mieux être spécialiste dans un domaine et faire appel à quelqu'un qui est vraiment bon que faire appel à un généraliste qui n'est pas forcément au cours des dernières technologies, des dernières évolutions. Et moi, je vois rien que pour mon métier. Tous les mois, il y a des choses qu'on découvre et qui permettent en fait d'aller plus loin. Et ce qui est intéressant maintenant en plus, c'est que la philosophie que j'ai, qui est l'efficacité maximale, c'est-à-dire essayer d'avoir un maximum de résultats en un minimum de temps ou d'efforts, maintenant cette philosophie arrive vraiment à percer. C'est ce qu'on maintenant on appelle officiellement le growth hacking. Mais c'est ma philosophie à moi, c'est avec peu de moyens, avec quand tu as même une petite entreprise, tu peux avoir un gros résultat, et c'est ce que j'essaie de faire moi avec mon blog ou pour les entreprises pour lesquelles je travaille. Voilà.
Ok. Justement, donc ton blog, a priori tu y arrives pas mal, parce que est-ce que tu peux nous parler de tes statistiques en termes de...
Oui, alors grosso modo, le blog il fait entre 10 000 et 12 000 visiteurs par jour, parfois un peu plus, hein, parce que y a des pics de trafic. Donc c'est vrai que ça peut paraître un gros chiffre, et c'est vrai que c'est un gros chiffre pour les blogs marketing, parce que sur d'autres blogs, d'autres thématiques, tu arrives quand même à faire venir beaucoup plus de monde. Mais le secret, en fait, il est vraiment dans la longévité du blog. Tu vois, ça fait depuis 2006, j'ai fêté mes 10 ans de blogging il y a pas très longtemps. C'est ça, en fait, qui apporte plus de trafic, puisqu'en fait, j'ai un certain nombre d'articles que j'écris depuis des années, et qui font que, finalement, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et à un moment donné, tu vois, j'écrivais quasiment un article tous les jours. Alors, bien sûr, c'était de l'article easy writing, c'est-à-dire que c'est de l'article qu'on fait très rapidement. Qui prend 5-10 minutes. À un moment donné, je faisais ça. Maintenant, j'ai un petit peu changé de fusil d'épaule, puisque la concurrence est devenue beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de contenu de qualité sur Internet. Et donc, j'essaye de faire plutôt du contenu moins souvent, mais du contenu de meilleure qualité et des articles qui sont beaucoup plus longs. C'est-à-dire que maintenant, je fais grosso modo deux articles par semaine, le lundi et le mardi. Parfois, le mardi, un easy writing encore, un truc super rapide. Et grâce à ça, en fait, j'essaie d'avoir du contenu qui soit vraiment le meilleur dans mon domaine d'activité. C'est ce qu'on appelle les articles piliers, les articles de référence, qu'on peut même transformer en livre blanc tellement ils sont bons, parce qu'ils font grosso modo 2500 mots, ou voire plus. Donc, ce sont vraiment j'essaie de faire le plus souvent ça. Et donc, ça permet d'être une référence. Et surtout, tu fais de la promo derrière. C'est-à-dire que quand je vais faire un super article comme ça, je passe du temps derrière à faire de la génération de trafic. C'est-à-dire que j'ai une checklist, c'est un petit fichier que je tiens, où je me dis, quand j'ai un super article, qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, je fais un relais sur Twitter, sur LinkedIn, je crée un article sur LinkedIn, je vais par exemple mettre une vidéo derrière. À chaque fois que systématiquement je fais un article de blog, systématiquement quand c'est un bon article, je fais un screencast, c'est-à-dire que je filme mon écran et je redis un petit peu ce que j'écris, mais de manière un peu différente, je donne des illustrations, etc., etc. Donc j'ajoute un peu de valeur ajoutée. Donc je le mets après sur YouTube, je le mets sur Vimeo, et après je transforme en fichier MP3 que je mets sur Audioboom ou que tu peux mettre sur SoundCloud, qui sont deux outils. Et après, en fait, ça me permet d'être présent sur iTunes. Et grâce à ça, en fait, en cumulé, je multiplie par 2 ou 3 mon potentiel d'audience. C'est-à-dire qu'un article qui va faire entre 500 et 1000 vues, enfin 1000 vues, 1000 visiteurs, hein, grosso modo, c'est la fourchette normale pour un article que je sors. En le mettant après sur en vidéo native sur Facebook, eh ben, je récupère à peu près 50-100 vidéos vues. Je le mets sur YouTube, je récupère une trentaine-cinquantaine de vues. Je le mets également sur LinkedIn, ben, je récupère entre 100 et 200 vues. Je le mets sur mon podcast, je récupère entre 200 et 300 écoutes, etc., etc., etc. Donc en fait, et puis après, j'ai aussi une technique que j'ai expérimentée. Tiens, je vais te montrer sur LinkedIn parce que c'est plus simple. J'ai moins de contenus qui sont publiés. Mais depuis grosso modo 6 mois, j'ai une technique qui marche bien. Surtout ben, sur LinkedIn, c'est pas forcément la cible des e-commerçants, sauf si vous êtes e-commerçant B2B. Mais en fait, je fais créer des images systématiquement pour mes meilleurs contenus entre guillemets. C'est-à-dire que quand j'ai un article top que je vais mettre en avant, par exemple là j'ai un article sur le service client, et donc en fait je vais faire créer à peu près une vingtaine d'images comme celle-là, tu vois ici, quand vous êtes au téléphone, il faut faire que ça, faut pas regarder sur Facebook, il faut pas faire des trucs, enfin tu vois, je mets des images comme ça sur LinkedIn, ce qui me permet en fait de multiplier à peu près par 3, 4, 5, le pouvoir de viralité d'un article. Voilà. Par exemple, là, sur le Grow Hacking, j'avais fait une petite image pour remettre en avant du contenu. Donc, en fait, le fait de pouvoir multiplier comme ça les supports de les médias, en fait, me permet de donner vachement plus de visibilité à mes contenus. Alors, on n'est pas obligé de les faire créer soi-même, hein. Moi, je le fais créer, j'utilise des services low cost comme Fiverr, qui est une solution en fait de low cost de création de logos, d'images, de vidéos, blablabla blablabla. Mais on peut aussi par exemple chercher sur internet des contenus existants qui sont pas copyrightés et les utiliser comme ça pour remettre en lumière du contenu. Et après, bien entendu, dans mon dispositif de promotion, j'utilise aussi des outils qui me permettent de remettre en lumière des anciens articles. Par exemple, j'utilise buffer.com. Voilà. C'est un petit outil qui me permet de retweeter mes contenus. Voilà. Donc en fait ici, tu vois, j'ai Buffer. Et tous les jours à 15h, tu vois, il y a un contenu de qualité qui est retweeté. Et donc en fait, je sais que j'ai 15, 20, 30 retweets, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Tu vois, je bloque. C'est une version gratuite, hein, que j'utilise, qui permet de mettre 10 contenus à la suite. Donc c'est-à-dire que je programme pendant plus d'une semaine des contenus. Voilà. Donc tu vois directement ce que je vais publier dans les quelques jours à venir. Donc ça me permet de me dire, bah tiens, hop, ok, très bien. Tu vois là, par exemple, mon guide de survie de l'e-commerçant, il est prévu aujourd'hui à 3h. Demain, il y aura le guide de l'emailing qui va être prévu. Et bien entendu, ça, c'est des contenus importants. Mais j'essaye de récupérer une liste de prospects. Donc à chaque fois, en fait, ici, ce sont des liens qui donnent vers des formulaires de téléchargement. Et mon but, c'est d'aller tous les jours récupérer des contenus. Et en plus, là, c'est toujours dans le dispositif d'automatisation. Hop, j'utilise Deliver It, qui me permet qu'à chaque fois que j'ai publié un article sur Twitter, c'est republié après sur LinkedIn, c'est republié sur différents endroits. Alors c'est bien de faire ça, de faire de la républication automatique parce que ça permet de gagner du temps. Le seul truc, c'est que ça te transforme en robot. Et en fait, mine de rien, j'ai remarqué que les gens se rendent compte que quand quand t'automatises beaucoup, ça se voit un peu trop. Donc j'essaye de réduire cet aspect automatisation-là en publiant manuellement des trucs, par exemple sur Facebook. J'utilise en fait, je fais de la publication automatique pour mettre un petit peu manuelle et automatique, pour mettre un petit peu d'humanité là-dedans, pour pour que ça fasse moins la World Company. J'essaye de donner des sentiments, j'essaye de parler de certains trucs, etc., etc. Donc ça me permet de pas être trop loin de mes clients, de mes prospects. Tu vois, là, c'est de l'automatique. Et puis, ça se voit que c'est de l'automatique. Donc là, par contre, je suis allé en Belgique il n'y a pas longtemps et j'ai un petit souvenir, une petite fête des Belgissimes. Voilà, des trucs belges. Donc voilà, c'est pour vous donner des petites idées. Et sur Facebook, clairement, ce qui marche vraiment bien, c'est le contenu visuel. Moi, j'en mets un max de contenu visuel. C'est ce qui marche le mieux. Mais là, on va revenir maintenant sur l'aspect e-commerçant. Là, je vous ai montré des trucs qui permettent d'animer une communauté, se faire reconnaître comme un expert, blablabla. Ça, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est quand même de générer du lead, générer des ventes, générer du prospect. Et donc, ce que moi, je vous invite à faire, c'est déjà essayer plutôt de générer du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça, en fait, que, par exemple, là, j'étais il n'y a pas très longtemps avec un directeur marketing et on parlait animation de page Facebook, je veux des j'aime, je veux du like et tout ça. Et en fait, je lui disais, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire avec Facebook. C'est vrai que c'est sympa si tu as une communauté importante pour faire revenir les clients, pour les fidéliser. Ta page, elle est plutôt là pour ça. Elle est là pour fidéliser, mettre un lien, mettre de l'émotion avec des gens. Mais ça va pas forcément t'attirer beaucoup de prospects en plus. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est utiliser des outils de Facebook comme Facebook Ads, qui est super puissant et qui est vraiment fait pour ça. Et aller cibler sur les centres d'intérêt, aller cibler sur les professions, et moi je le fais régulièrement en complément d'AdWords. Et je dis toujours que AdWords et Facebook, ben, c'est deux outils qui sont complémentaires. Facebook, en fait, on va plutôt cibler des audiences, c'est-à-dire que je vais chercher sur Facebook des gens qui aiment tel truc, qui sont passionnés de tel truc, etc., etc. Et je leur affiche une offre irrésistible pour lesquelles, en fait, ils disent « Ah ouais, wow, c'est vraiment intéressant, c'est un produit d'appel. » Et AdWords, c'est différent. C'est tout simplement, bah, je vais capter des gens qui recherchent quelque chose, qui sont en recherche d'achat sur un produit, sur une thématique. Hein, voilà. Bien sûr, AdWords permet de faire d'autres choses, hein, comme par exemple afficher sur des sites. Par exemple, tu as un blog qui est très célèbre, je ne sais pas si tu vends de la laine, tu es dans le domaine du tricot, bah, tu vas aller afficher la publicité sur des sites de tricot. Ça, c'est le réseau de contenu d'AdWords qui peut marcher pas mal. Alors, il y a bien beaucoup de faux trucs, hein. Il y a beaucoup de faux clics sur le réseau de contenu, donc il faut faire attention. Il faut avoir des campagnes dédiées, mettre un coût au clic qui est très faible, qui est genre 10 fois moins faible au moins. Et puis Facebook aussi, on peut faire plein d'autres choses en plus. Hein. Moi, j'invite tous les e-commerçants à mettre de pixels de Facebook sur leur site pour pouvoir avoir des audiences similaires et comme ça, les pouvoir toucher des personnes qui ressemblent aux gens qui visitent leur site Internet. Et le dernier point, là encore, j'avais une e-commerçante qui me disait « Ah, je comprends pas, j'ai un site Internet, j'ai du trafic, j'ai des gens qui mettent des produits dans le panier, mais ils commandent pas. » Et j'ai dit, mais attends, déjà, il y a une chose qui est essentielle à faire, mets un chat sur ton site. Alors là, je l'ai pas mis sur conseil marketing parce que je l'ai arrêté parce que j'ai un gros dossier là en cours et j'ai plus le temps en fait de faire du chat. Parce que le chat, en fait, c'est hyper puissant. Ça humanise ta marque et en plus, ça te permet d'améliorer tes conversions, mais d'une manière de malade, quoi. Parce qu'en fait, les gens, parfois, ils abandonnent le panier parce qu'ils savent pas, parce qu'il manque un truc, il manque une information, etc., etc. Et le chat, comme tu vois ici en bas de l'écran, donc il est vraiment bien parce que, tu vois, il est très visible. Est-ce que je peux vous aider, etc., etc. Voilà. Mais surtout, en fait, c'est un chat proactif. Normalement, au bout de quelques secondes, soit 45 secondes ou un truc comme ça, il va se lancer, il va dire « Bonjour, vous voulez de l'aide pour un truc ?» ou un truc comme ça. Donc ça, en fait, ça permet justement de limiter l'abandon de panier, d'améliorer la conversion des visiteurs. Donc voilà. Bon, j'ai peut-être un peu parlé beaucoup, je te laisse peut-être reprendre le fil.
Non, c'est super intéressant. Et pour en revenir au chat, moi aussi j'avais installé un chat sur ma boutique et c'est vrai que tu réponds directement aux questions et tu rassures les clients parce que tu es présent, donc ils savent qu'il y a quelqu'un derrière. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même bien mesurer le temps que ça prend. Parce que déjà, ça demande d'être disponible, parce que tu es obligé de répondre assez rapidement. C'est du chat, hein, c'est pas non plus un mail. Donc il faut être assez réactif. Moi, je pense que sur un site e-commerce, c'est pas mal, mais il faut peut-être pas le mettre sur n'importe quelle page non plus. Ça peut être intéressant de le mettre sur les produits les plus rentables ou justement dans le tunnel d'achat. pour éviter les abandons de panier. Mais moi, j'avais constaté que j'avais beaucoup de gens qui, justement, allaient sur le chat et prenaient pas la peine d'aller lire ma FAQ, etc. Et du coup, je me répétais, en fait. Je leur disais ce que j'avais vu sur... ce que j'avais mis dans ma FAQ. Et au final, bon, il y avait une progression au niveau des ventes, c'est sûr, mais...
il y a du temps.
Trop de temps, quoi.
Donc, ouais. Bah, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai, en fait, j'ai des raccourcis. Et en fait, hop, tac, j'ai des messages automatiques qui apparaissent. Et donc, en fait, le mec, tranquillou, je lui mets enfin, il me posait une question et je lui répondais. Alors, par contre, je suis d'accord avec toi que ça, comment dire, ça te prend du temps. Ça dépend de ton nombre de visiteurs. Après, ouais, la conversion. Moi, par exemple, c'est vrai que tu as raison. Moi, je l'ai mis, par exemple, sur certaines pages AdWords. Parce qu'en fait, tu peux mettre un chat sur une page AdWords, une landing page dédiée, par exemple sur un produit ou quelque chose comme ça. Et sincèrement, ça m'a permis d'aller récupérer quelques clients qui disaient ouais, où est votre prix, alors que le prix il était indiqué quoi. Mais bon, des fois, il y a des gens qui font pas d'efforts. Donc tu as raison, il faut sélectionner ces pages. Moi, je mets dès la home page sur ce site-là parce que c'est un site lead gen, c'est-à-dire que c'est pas un site de vente, c'est un site en fait qui est fait pour générer du prospect. C'est un site B2B et il y a peu de trafic. Mais dès que tu as du monde, c'est vrai que ça peut être chaud. L'autre truc que je mets en place, c'est qu'en fait, toi, j'ai un chat proactif ici, mais je suis jamais là. C'est-à-dire que ici, ce site-là, et même sur Conseil Marketing, le chat, il est tout le temps allumé, il se déclenche comme ça de manière automatique, mais je ne suis jamais derrière. Parce qu'en fait, mon but après, c'est d'aller retirer du lead. Et là, ici, par exemple, les gens vont me poser une question. Voilà, tac, tac, tac. Et ensuite, tu vois, comme je suis pas connecté, il va me dire, donnez-moi votre email et votre numéro de téléphone. Et en fait, ça va arriver là, par exemple, je vais mettre ça, tac. Tac, et ça va arriver dans mes messages. Alors après, c'est pas idéal parce que les gens vont partir, vont peut-être commander ailleurs. Mais ça va en fait envoyer le message et la conversation par mail. Donc ça peut être un petit truc. Mais c'est vrai que ça peut être déceptif. Donc à vous de voir. Mais le chat, en tout cas, par exemple, pour la nana là, dont je t'ai parlé pour son problème de conversion, le problème, c'est qu'elle ne savait pas. Elle ne sait pas pourquoi les gens ils commandent pas, ils ne savent pas pourquoi ils font des abandons de panier. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir si tu ne discutes pas avec les gens. Et là, tout de suite, j'attends de ses nouvelles pour qu'elle me dise, OK, qu'est-ce que ça donne, quoi.
Ouais, voilà. Je pense que ça peut aussi être utilisé comme ça parce que tu prends la personne à chaud, en fait. Moi, j'ai pas mal de avant que ce genre de chat soit vraiment... parce que maintenant, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire, mais il y a encore pas très longtemps, c'était encore assez difficile de mettre ça en place. J'avais des commerçants qui venaient vers moi en me disant « Bon, bah, je comprends pas, j'ai des gens qui m'envoient des mails en me disant qu'ils ont un problème, mais voilà, c'est pas précis ce qu'ils disent, voilà, j'arrive pas à reproduire le bug. Mm-hmm. » Et c'est vrai qu'à la limite, t'as un chat qui est dispo à ce moment-là, la personne... En plus, il y a certains chats qui donnent la fonctionnalité de voir l'écran de la personne quand elle... Ouais. Le manipule. Et donc là, c'est vrai que déjà, par exemple, pour du débugage, ça peut être absolument génial parce que si tu as un bug que tu n'arrives pas à reproduire, bah, c'est très difficile de corriger. Et c'est vachement utile ce genre d'outil. Et comme tu le précises là pour l'e-commerce en tant que question, si tu as un problème sur un point précis, tu peux très bien mettre en place le chat jusqu'à ce que tu résolves le problème. Donc tu vas consacrer du temps, mais une fois résolu, tu retires le chat. Mm-hmm. Et après, de toute façon, ce que j'ai pas fait moi quand j'ai mis le chat et ce que je devrais faire pour en fait vraiment vérifier l'intérêt du truc, c'est de me dire tous les jours pendant 2 heures j'affiche le chat et je suis présent, donc éventuellement pendant les périodes où il y a plus de monde sur mon site, et j'essaie de mesurer les conversions sur cette période là par rapport à une période où j'ai pas le chat, tu vois, et comme ça pour évaluer l'efficacité de l'outil, quoi. Et c'est de toute façon, a priori, faut tout tester de manière assez précise si on peut. Mais sur un système de chat comme ça, je pense que c'est faisable d'avoir une idée de l'impact au niveau des conversions, quoi.
Ouais. Mais c'est vrai que après, moi, là je t'ai montré mon outil de chat, hein, c'est ClickDesk. Avant, j'étais sur Zopip pendant longtemps. Et là, j'ai trouvé un truc qui est vraiment mieux parce qu'ils font du vidéo chat. Alors encore une fois, là, c'est comme tu as dit, c'est du temps, hein. Que passer de la vidéo avec les gens, tu sais, ils aiment bien discuter, tu perds ton temps, blablabla. Il faut faire gaffe c'est pas trop time consuming.
C'est utile quand même, donc c'est pas mal pour ça aussi.
Ouais. Et pour le tracking, maintenant, je suis en train d'expérimenter un nouveau truc parce que trouve qu'en fait, voilà, ClickMeter, excuse-moi. Je trouvais en fait que Google Analytics est, est un, parfois un petit peu complexe à traquer des trucs. Et là, maintenant, je suis en train de tester ce nouveau truc-là, c'est ClickMeter. J'ai testé depuis une semaine ou deux. Et c'est vrai que c'est assez simple à manipuler, pour, au contraire de Google Analytics, qui est parfois un peu relou. Et en fait, là, tu peux vraiment créer simplement des liens traqués. Tu peux voir, donc, bien sûr, avec différentes sources. Tu peux après voir la conversion. Tu peux même créer un pixel de conversion directement. C'est assez sympa. Je l'ai vraiment. C'est vrai que c'est pas peut-être pas forcément. Ça vient un peu en concurrence d'un Google Analytics. Si tu maîtrises bien Google Analytics, t'as aucun intérêt de t'y mettre. Mais c'est assez sympa. Je trouve que au niveau fonctionnalité, c'est vraiment simple, quoi. Tu vois les conversions, tu vois les clics. Et par exemple, moi j'avais un souci parfois. Je voyais beaucoup de clics et je me disais, merde, est-ce que c'est des clics des vrais clics ou c'est des clics de de moteur de recherche? Et c'est vrai que là, je l'ai vu tout de suite, il t'analyse des spiders, des bots, et il t'analyse des vrais clics. Et par exemple, tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait appel à un service de promotion sur Twitter. En fait, c'était simple. C'est des mecs qui font de la promotion via des comptes qui acceptent de faire du relais de tweets. Et je dis, je vais tester, ça peut être intéressant de voir si ça marche ou pas. Donc j'ai utilisé un petit budget, j'ai créé une URL traquée et après j'ai viré les conversions derrière et j'ai vu qu'il y avait 50% des clics qui étaient des clics de robots, donc de bots, et après je voyais après les vrais clics et je voyais après la conversion, et c'est vrai que bon, ça coûtait pas très cher, mais bon, la conversion derrière était assez moyenne. Voilà. Donc toi, s'il y a des gens qui se disent Google Analytics, c'est compliqué, j'ai du mal à suivre mes conversions, j'ai besoin d'un truc plus simple. Là, ClickMeter, il peut être assez sympa, il peut même faire de l'affiliation en fait dedans et tout ça, c'est pas mal. Ça ne va pas remplacer Google Analytics, mais ça va être assez sympa pour faire des petits suivis de conversion.
Voilà. Et tu peux cumuler les deux en fait
En fait, comme c'est indépendant, tu crées comme je l'ai dit il y a deux secondes, tu fasses par exemple un sponsoring de newsletter, tu veux en fait dire tiens je fais un envoi de newsletter avec un partenaire ou je fais de la co-registration, tu mets un lien traqué, en plus tu peux avoir des liens liés à ton domaine et non pas des liens genre bit.ly/blablabla, donc tu peux avoir un lien lié à ton domaine. Et donc, ton nom de domaine, c'est-à-dire que ce sera toto/1234, n'importe quoi. Donc, tu le mets dans ta newsletter, ça fait un lien un peu friendly. Et donc, après, derrière, tu dis, voilà la page de paiement, par exemple. Tu pourras dire, il y a eu tant de clics de robots, des clics des vrais trucs. Et tu peux dire, après, ça m'a eu tant de conversions. Et bien sûr, tu peux gérer des montants, des trucs comme ça. Et c'est super graphique, c'est... Alors là, comme je dis, je suis vraiment au début, donc ça c'est pas encore très significatif, mais c'est vraiment sympa à utiliser, c'est simple. T'as une version gratuite qui peut aller jusqu'à 1000 clics, mais par contre, tu gères pas les conversions. C'est ça qui est un peu emmerdant dans la version gratuite, donc c'est pour ça que je suis passé assez vite sur la version payante. Après, c'est vrai que ça, si t'as beaucoup d'événements, beaucoup de clics, ça peut coûter assez cher, parce que, tu vois, plus t'as d'événements, tu grimpes tout de suite à un montant qui devient... qui devient assez important, quoi. Mais bon, pour tester des petits trucs, tu vois, on va dire 5000 clics avec des conversions, c'est pas mal quand même. Tu peux faire de la B-testing et tout ça, c'est assez sympa, quoi. Tu vois, c'est celui-là que moi j'ai pris pour l'instant. On augmente un petit peu le nombre d'événements. Parce que 5000 clics, tu arrives assez facilement, quoi. Si tu as quelques campagnes AdWords qui tournent, si tu as un peu d'email, par exemple, d'emailing, tu arrives très rapidement à ces montants-là. Mais l'intérêt, c'est que c'est vraiment simple. Vraiment super.
Peut-être une vidéo de présentation sur ta chaîne, de l'outil,
En fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de bien tester d'abord les outils. Parce que là, je suis pas encore... Je suis en train de me dire, est-ce que ça va vraiment être plus rentable que d'utiliser un Google Analytics. Donc je suis encore dans le test. Et dès que j'aurai un petit peu testé le truc, je ferai sans doute un... De toute façon, j'ai vraiment ces outils-là qui sont à forte valeur ajoutée. Je les mets dans la Star Marketing Academy, qui m'a en fait ma mi-formation continue sur le growth hacking. Donc des outils comme ça, j'explique comment ça marche. Et par exemple, là, tu vois, je suis en train de tester un truc aussi ici. Ça sera dans la prochaine version de la Star Marketing Academy. Alors là, je suis peut-être en résolution un peu zoom, moi, je vais dire un peu zoom. Parce que là, j'ai fait une... Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis ce que ça s'appelle Response Messenger. Alors, attends, faut que je retrouve le nom. Je vais te dire ça tout de suite. C'est un petit... voilà. Hop, ça s'appelle... non, c'est inspecté la page, excuse-moi. Voilà, c'est un Response Messenger. C'est un truc que je vais mettre dans la Star Marketing Academy que j'ai testé. Ça s'appelle Push Responder, voilà. Push Responder. C'est un petit outil qui permet en fait d'afficher ici un push message. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, dans certains sites internet, tu as des messages qui disent « Tiens, est-ce que vous voulez suivre l'actualité ?» Et après, en fait, tu as des messages qui apparaissent. Par exemple, tiens, envoie-moi un message sur Twitter. Tu vois, Twitter et Facebook ont activé ça. Si tu m'envoies un direct message sur Twitter, comme j'ai activé le push message, je vais avoir une petite fenêtre sur Twitter qui me dit « Bah tiens, il y a Olivier Clément qui vient de m'envoyer un message. » Et ben en fait, ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur votre site internet, vous pouvez dire aux gens, ici, le message, il est là. Ah là, il y a la bulle, donc on ne voit pas. Voilà, je vous propose de recevoir une sélection de mes meilleurs conseils, la crème de la crème, afin de vous aider à faire la différence sur votre métier. Vous n'allez recevoir que le top de conseils marketing. Non, merci, OK. Et si je clique sur OK, à chaque fois, en fait, je vais arriver dans un système, en fait, de messages que je peux envoyer, des messages automatiques ou des messages manuels. Qui vont en fait leur permettre en fait d'avoir un petit message en disant tiens voilà les dernières actus, la promo, on sort une nouvelle version du produit, etc., etc. Et là en fait ça leur enverra un message via le navigateur, une petite alerte en fait, et c'est assez puissant en fait. Alors faut faire attention à pas multiplier non plus les fenêtres pop-up. Ah tiens tu vois, il y a Facebook là qui m'en envoie une, Mickaël Lafras, ask to join le bon plan Paris, etc. Donc c'est exactement ça. C'est ça une push message. Et ça marche sur ça marche sur Chrome. Je crois que ça marche sur IE ou Mozilla, mais pas tous. Mais en tout cas, ça marche sur une partie des navigateurs. Et ça, encore une fois, toi, c'est des petits trucs. Si tu ne tiens pas au courant de l'actualité marketing, tu peux vite tomber à côté. Alors, encore une fois, il faut...
Tu as des résultats là-dessus ?
Je suis en train de le mettre en place. Donc, c'est vraiment le début. Là... le taux de conversion n'est pas formidable, c'est-à-dire que je dois être à peut-être 1% de conversion de visiteurs, un peu moins, faut que je refasse le calcul, c'est entre 0,5 et 1% de conversion pour ça. Et après, bien sûr, grâce à ClickMeter, tu vois, je vais mettre un petit message, je vais traquer le lien et je vais tout de suite savoir sur un message envoyé, je sais pas, à 500 ou 1000 personnes qui sont abonnées dessus, combien je ferai de ventes ou combien je ferai de clics. Tu vois. Et c'est pour ça que ClickMeter est assez sympa, parce qu'avec Google Analytics, tu galères un peu parce que tu vas aller voir dans tes conversions, machin, tout ça. Tu n'as pas cette idée qui est vraiment en trois clics, je fais ma campagne, tac, tac, et je vois tout de suite les résultats. Donc, voilà.
Bah, tu peux le faire, mais
donc, oui.
C'est plus compliqué à faire dans Google Analytics.
Ouais, parce que c'est un outil qui est tellement puissant. Même moi, tu vois, Google Analytics, je pense que j'utilise à 5% de ses capacités. Que pour des petits tests comme ça, qui sont des tests marketing, autant Google Analytics, il est vraiment super pour tout ce qui est ok, tu suis les conversions AdWords, machin, tout ça, tu as les visites, c'est super. Mais autant pour des petits tests comme ça de très pointus, je trouve que c'est un bazooka pour tuer un moustique. C'est beaucoup plus simple d'avoir un outil qui est beaucoup plus beaucoup moins évolué. Alors, en revanche, là encore une fois, je fais un truc qui est important, que tes auditeurs qui sachent, attention à pas se faire prendre par les effets de mode. C'est vraiment un des plus gros dangers que je vois en fait en web marketing de manière générale, c'est attention aux effets de mode. Par exemple, il y a des gens qui vont dire ouais, la grosse mode maintenant c'est Snapchat, il faut être sur Snapchat, c'est génial. Ou le petit message que je t'ai montré il y a 2 secondes là, ouais, c'est génial, c'est un nouveau moyen d'aller convertir les clients, ou ClickMeter, waouh, c'est génial, ça va vous permettre d'aller suivre les campagnes. Il faut faire attention, parce que dans le marketing, tu as beaucoup, beaucoup d'outils qui sortent. Et il ne faut pas partir tout le temps à la chasse du nouveau. Il faut rester sur ses fondamentaux, en particulier dans l'e-commerce. Hein. Il faut dire clairement que ben, voilà, tu as AdWords, tu as Facebook Ads, tu as les places de marché, tu as les SEO, tu as l'affiliation. Tout ça, en fait, ce sont des basiques, des fondamentaux qu'il faut pas, en fait, négliger. Il faut pas se dire, tiens, ben, je vais pas, comme tu dis, le chat, hein, c'est un bon exemple aussi, le chat, tu peux facilement y passer des heures si tu fais pas gaffe. Il faut faire attention à la rentabilité et se concentrer sur ce qui marche vraiment.
Ouais, dès que tu as un nouvel outil, faut forcément déjà définir une stratégie, sans que ça passe par trois jours d'études, mais tu peux définir une stratégie, des objectifs, et à partir de là, tu peux vérifier si c'est efficace ou pas, parce que sinon, en effet, tu peux rajouter bah, tout ce que tu nous as présenté, tu peux le rajouter, tu vas déjà risquer de transformer un peu ton site en sapin de Noël, et tu vas t'éparpiller, et derrière, si tu ne mesures rien, tu n'as aucune idée de ce qui fonctionne, et d'autant plus que si tu n'as pas moyen de traquer précisément, si tu commences à utiliser plein d'outils différents, tu ne sais pas lequel te booste tes ventes, en fait. Et
c'est ouais, par exemple, tiens, j'ai un exemple il n'y a pas longtemps qui est vraiment assez frappant. Tu vois, c'est pour un site, en fait, là c'est un site B2B. En fait, il cherche à vendre, en fait, du logiciel. Et c'est assez marrant parce qu'il me disait, ouais, c'est génial, on a mis le chat sur le site internet, ça nous ramène vachement de prospects super chauds, on est super content, bravo. Je dis, ok, très bien. Puis on analysait donc les campagnes, les sources de prospects, et puis donc le chat, bam, ça avait explosé tout d'un coup leurs sources de trafic et de génération de prospects. Et puis je leur disais, mais ouais, on va investir plus de temps, blablabla. Bla, 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 bla. Et puis je leur dis, mais ok, mais le chat, c'est juste un outil, en fait, c'est pas un canal de génération de trafic. Et j'ai dit, mais ok, mais d'où ils viennent, ces gens-là? Et c'est vrai que dans le chat, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir, en fait, quelle est la source d'entrée dans le site. Et finalement, en faisant une petite analyse, on s'est rendu compte, en fait, que c'était le SEO que j'avais fait il y a quelques temps de ça, qui avait ramené, on va dire, allez, un tiers des visiteurs. Après, tu avais un peu de Facebook, tu avais un peu d'AdWords. Mais en fait, pour eux, le canal qui générait du prospect, c'était le chat. Or, en fait, les vrais canaux qui généraient du prospect, c'était encore de l'AdWords, c'était de Facebook et c'était du SEO. Donc, en fait, il faut encore une fois bien identifier d'où ça vient. Et par exemple, en SEO, il y a quand même pas mal de choses. En e-commerce, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à travailler. C'est pas simple parce que forcément, on n'a pas forcément le contenu, on n'a pas forcément le temps, etc., etc. Mais sur le long terme, c'est quand même assez intéressant parce que le problème de toutes les techniques de PPC, c'est que tu payes, et t'es toujours un petit peu à la merci il faut toujours avoir du budget, et le référencement naturel, c'est quand même un investissement plus sur le long terme. Après, il y a plein de choses. Moi, j'ai testé pas mal de choses en référencement naturel. Hein. J'ai testé des écrivains professionnels, des rédacteurs, à la fois en low cost et en vrai truc. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une bonne technique de référencement. Il faut travailler donc bien sûr les contenus, il faut travailler les liens. C'est du gros boulot. Moi, j'avais travaillé donc pour une boîte là pendant 3 mois sur la création de contenu. Alors donc ça portait ses fruits, mais c'était un gros boulot pour générer du trafic et générer des liens. Quoi.
Ouais. Et ben justement, donc on parlait tout à l'heure de ton blog qui a quand même des statistiques très intéressante. Voilà, moi souvent, c'est quand même un conseil que j'essaie de donner aux e-commerçants parce que je trouve que le blog a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages pour un e-commerçant, même si on est d'accord que l'objectif du e-commerçant, c'est pas forcément d'amener du monde, c'est de déclencher des ventes. Mais voilà, moi je leur conseille souvent de réfléchir si un blog serait pas intéressant parce que ça permet quand même de donner confiance aux clients, de faire du contenu régulièrement plus facilement que sur des fiches produits, etc. Et c'est un apporteur de trafic, etc. Toi, alors déjà, donc tu blogues très souvent. Donc j'ai deux questions. Qu'est-ce qui te donne envie de bloguer aussi régulièrement? Qu'est-ce qui te plaît dans le blogging? Et tu disais que tu tu es capable de rédiger très rapidement. Est-ce que tu as des petites techniques, notamment en easy writing, à partager qui permettent de bloguer souvent sans non plus y passer un temps incroyable? Parce que justement, les commerçants, pourquoi ils lancent un blog? C'est pour deux raisons. Un, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils vont dire, et deux, ils n'ont pas le temps. Donc, est-ce que tu as des...
Oui, bien sûr. Alors en fait, il y a, pour moi, il y a grosso modo deux types de contenus sur un blog. Je caricature un peu, mais on va dire il y a deux types de contenus. On prend même deux ou trois. En fait, le premier, en fait, c'est le contenu SEO. Alors le contenu SEO, même si on en fait toujours un petit peu, on essaye de plus trop en faire, c'est comme ça qui marche pour générer sur, quand on est sur une thématique qui n'a pas un gros une grosse concurrence, c'est-à-dire que ça marchera pas sur l'informatique, ça marchera pas sur je sais pas, les trucs vraiment enfin les produits d'hygiène, etc. Ça va être compliqué d'y être présent, mais sur les produits un petit peu segmentés, le contenu SEO est vraiment bien. C'est un contenu SEO, c'est un contenu qui est fait pour plutôt Google, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur un certain nombre de mots clés. Moi, j'utilise plusieurs outils. Hein. Bien sûr, tu as le Keyword Generator d'AdWords. Bon, j'y reviendrai pas pendant des heures, mais tu as aussi SEMrush qui est assez sympa. Qui te permet en fait d'identifier. Comment ?
À propos du d'ailleurs, j'ai vu ça il y a quelques jours. Ils ont fait une mise à jour sur le Keyword Planner de Google et on n'a plus vraiment les valeurs qu'on avait avant. Je ne sais pas si tu as vu.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est. Alors, je vais prendre mon mot de passe. En fait, j'ai plusieurs comptes. Alors ça, c'est SEMrush, par contre, c'est un compte, c'est un produit qui est, comment dire, qui est, voilà, je sais pas si c'est mon compte principal, qui est payant et qui est un petit peu cher. Mais bon, ça peut être, ça peut être intéressant. Alors là, bah, si tu as une idée, alors on va taper Rue du Commerce, rue du commerce.fr. Ça permet en fait d'analyser quels sont les mots-clés qui sont les plus qui rapportent le plus de trafic sur un site internet. Voilà. Hop. Donc en fait là, il va te dire bah voilà, il te montre aussi les annonces AdWords des concurrents. Là par exemple, tu vois, en display, a priori, il a réduit son budget display. Et là en fait, tu peux voir un peu lent là. Donc ici, tac. Tu peux voir en fait, hop, je te remets tout de suite. Là, tu peux voir en fait les clés qui lui ramènent le plus de trafic. Par exemple, ici, c'est iPhone 6S, etc., etc. Bon, là, Rue du Commerce, malheureusement, c'est du, il y a beaucoup de mots clés. Donc, en fait, t'auras pas forcément des mots clés qui sont pertinents. Sur un petit site e-commerce, ça va être beaucoup plus intéressant. Là, tu peux dire PS, parce que toi, ça va nous sortir des PS4, iPhone, par exemple, Stan Smith, pas cher, tu vois. Ça c'est intéressant pour un e-commerçant de se dire, tiens, un mot-clé qui est beaucoup tapé, ici, tu vois, t'as quand même 22 000, donc ça c'est la concurrence, si je me souviens bien, tac. Voilà, difficulté. Donc ça, c'est la difficulté à se positionner là-dessus. Donc tu peux identifier des mots-clés comme ça qui peuvent être intéressants pour toi. iPhone 5, 6S. C'est marrant qu'il y ait encore des gens qui recherchent ce genre de mots-clés-là. Ça, c'est dans les 6 derniers mois, tu peux chercher sur d'autres périodes. Et donc, c'est quand même sympa de se dire, tiens, quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic chez mes concurrents? Alors, à partir de ça, en fait, tu vas aller créer du contenu sur ton blog ou des pages sur ton site e-commerce ou des fiches produits avec ces mots-clés-là. Par exemple, tu es dans le Stalsys, c'est des... je crois que c'est... Je suis pas très mode, moi. Stan Smith, c'est des chaussures. Je suis pas Stan Smith. Ah, je sais pas ce que c'est. C'est des godasses. Tu vois. Donc en fait, si tu vends des chaussures, tu vas dire que je vais créer sur mon blog une page qui va se nommer Stan Smith pas cher. Et là, en fait, tu vas dire comment avoir des chaussures Stan Smith pas cher. La première chose, c'est les acheter sur Internet. Il y a à peu près X moins de pourcents par rapport à une boutique réelle. D'ailleurs, si vous commandez via ce lien, vous avez un bon de réduction de 2 euros sur le prix ou 5 euros sur votre Stan Smith dans notre boutique. Voici le lien pour acheter la Stan Smith Puis derrière, tu dis Stan Smith, c'est une vieille marque qui date de blablabla. C'est super à la mode. Tu rajoutes une ou deux images, tu rajoutes une petite vidéo de Stan Smith. Et voilà, t'as un contenu entre guillemets SEO. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est fait plutôt pour Google, qui est fait bien sûr pour convertir, parce que si tu crées un contenu et que tu lances pas un appel à l'action pour commander chez toi, pour t'inscrire à un newsletter ou pour faire un truc, ça ne sert à rien. Il faut véritablement que cet article SEO soit fait pour ça. Alors donc bien sûr cet article SEO, soit tu le fais toi-même, soit tu le fais rédiger par des rédacteurs. Alors tu as bien sûr TextBroker, tu as TextMaster qui existe, qui permettent en fait d'avoir des rédacteurs. Par contre, la qualité est toujours pourrave, même si tu mets des étoiles assez importantes, c'est souvent pourrave. Il faut vraiment faire gaffe et sélectionner des bons rédacteurs, et tu as toujours une relecture à faire. Mais bon, moi j'utilisais surtout comme brouillon entre guillemets. Je leur disais, bah voilà, tu prends un article, par exemple en anglais, sur cette thématique-là, tu as traduit, enfin je lui donnais deux, trois articles, hein, en fait, sur, par exemple, on va dire, tu tapes Stan Smith, how to choose Stan Smith. Ok. Alors, j'ai pas mis la bonne orthographe. Ça, c'est un truc qui est how to choose Stan Smith. Et là, en fait, toi, tu as deux, trois articles. Bon, Stan Smith au Superstar. Enfin, voilà, tu envoies ces liens-là sur TextMaster ou TextBroker. Tac. TextBroker, par exemple. Voilà, tu vas sur TextBroker. C'est à peu près une dizaine d'euros l'article. Mm-hmm. De 500 mots. Et là, en fait, tu dis, ben voilà, tu me crées un article de 500 mots sur le thème Stan Smith pas cher. Voilà. Et dedans, tu vas devoir dire tel mot, et pour t'inspirer, parce que généralement les mecs ils connaissent rien, tu t'inspires de ces deux articles là sur comment choisir un Stan Smith dedans. Et donc là t'as orienté le truc, t'as le titre qui sera choisir un Stan Smith, t'as le contenu, toi tu rajoutes après ton bon de réduc ou ton truc, et voilà, t'as ton contenu, t'as plus qu'à copier-coller, tu fais une petite mise en forme, tu rajoutes une image, et tu peux en un quart d'heure, avoir un contenu important.
Est-ce que tu as déjà pratiqué à l'inverse? Parce que, voilà, après, chacun gère ça comme il le sent, mais c'est vrai que, après, comme tu le dis, la rédaction, elle n'est pas forcément au niveau de ce que tu veux sur ton blog, donc peut-être que derrière, tu es obligé, comme tu le dis, d'utiliser comme un brouillon. Est-ce que, par contre, à l'inverse, et moi, c'est quelque chose que je voudrais faire, je n'ai pas encore eu le temps de défaire, mais je pense qu'il me ferait gagner pas mal de temps dans la rédaction de mes articles, c'est est-ce que tu sous-traites parfois la recherche d'informations? Parce que si tu connais rien en Stan Smith, par exemple, comme c'est notre cas a priori pour nos deux, et qu'on veut faire un article dessus, on va peut-être passer plus de temps à trouver de l'info qu'à rédiger l'article. Et est-ce que...
C'est pour ça, en fait, que... Alors après, ça, c'est du contenu SEO. Hein. Du contenu SEO, c'est du contenu un peu pourrave. Faut pas s'attendre à des miracles. C'est pour ça que une bonne astuce, c'est prendre du contenu en anglais. Ne pas le traduire, c'est important, hein, parce que t'as pas le droit de faire traduire un contenu direct. Tu donnes au rédacteur des inspirations. C'est vraiment fait. Et moi, à chaque fois, je le dis, don't copy. Deux, c'est peut-être pas assez. Moi, généralement, je donne deux, trois articles, hein, trois au moins. C'est important de dire, tu t'inspires de ça. Et donc, un mec même qui connaît rien au Stan Smith, il est capable de faire un truc qui tient à peu près la route, quoi. Et bien sûr, ces articles-là, SEO, faut pas les mettre en avant sur son blog. Ma technique, c'est pas de les publier au jour même, c'est que tu les publies à peu près trois mois, un mois derrière. C'est-à-dire que tu publies, tu l'antidates. Donc en fait, les lecteurs, ils le verront régulier, ils le verront jamais. Mais par contre, tu vas le tweeter sur ton compte Twitter ou sur un compte Twitter justement annexe. C'est-à-dire que tu vas pas le faire sur ton compte principal parce que tes lecteurs vont dire « Mais c'est quoi cette merde ?» Tu vas le mettre sur un compte Twitter ancien. Comme Google, il scanne systématiquement tous les tweets qui sont faits, il va être référencé tout de suite. Et donc là, tu auras ta page qui sera référencée, vue même si tu l'as publié un mois après. Donc ça, c'est la première partie. Hein. On est bien d'accord, c'est du contenu SEO pourri. Tu vas pas avoir des miracles avec. Mais par exemple, moi je le fais, par exemple, quand les gens me disent « Oh là là, en SEO ça va pas. En SEO, ben il y a plein de, enfin, on n'arrive pas à générer beaucoup de contenu et on a besoin en fait d'être présent sur un certain nombre de mots clés rapidement. Et là, par exemple, je l'avais fait pour une marque. On a fait un article de blog tous les mois pendant 90 jours, donc 90 articles de blog qui ont été publiés pour se positionner sur des mots clés. Alors comme je le disais, hein, si t'as du trafic, si t'as un truc qui est super concurrentiel, ne rêve pas. Des articles comme ça ne marchera pas parce que il faut des liens depuis d'autres sites pour faire remonter ce genre de contenu-là. Et je ne rentrerai pas dans le détail sur comment on fait des liens, on achète des liens, on fait des liens internes, parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, là tu, si tu es sur une thématique un peu précise, que tu as des mots-clés, ça peut le faire. Alors bien entendu, sincèrement, c'est, le SEO, c'est pas aussi simple que ça, hein, mais je vous montre un exemple. Il faut bien sûr avoir des pages principales et en dessous des mots-clés secondaires qui pointent sur le mot-clé principal. Il y a vraiment de la technique à faire. C'est pas juste à l'état que je vais produire des trucs tout pourris. Le deuxième point aussi pour le SEO, le contenu SEO, ce que je fais beaucoup, c'est l'inventaire de contenu. Alors, c'est pour les commerçants, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément un inventaire de contenu, sauf si tu es producteur. Si t'es juste un distributeur de produits grand public, trouver du contenu original, c'est compliqué, mais quand t'es par exemple fabricant, bah tu peux avoir par exemple des fiches produits PDF que t'as sorties il y a 10 ans, tu les scans, tu fais un OCR, et après tu le récupères dans ton site web, et tu peux créer comme ça du contenu. Alors c'est ce que j'appelle l'inventaire de contenu. L'inventaire de contenu, ça marche bien quand tu as une belle antériorité, tu as du contenu existant, tes fabricants, etc., etc. Et là, en fait, tu peux produire comme ça, par exemple, là, les 90 articles, il y avait une bonne moitié qui venait de là, en fait, hein, même plus, qui venait en fait d'inventaire de contenu, qui est différemment du contenu de bonne qualité en plus. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Le contenu SEO, on produit du contenu. Après, comme je le disais, il y a tout l'aspect lien, etc., interne, etc., qui est super important. Et je ne vais pas y revenir parce que c'est autre chose. Et l'autre chose, après, c'est exactement ce que tu disais, c'est l'article de qualité. Là, l'article de qualité, en fait, c'est par exemple un guide d'achat. Et c'est par exemple un point de vue sur un secteur, c'est une étude qu'on va faire, c'est par exemple une infographie ou des choses comme ça, dont le but, en fait, c'est pas d'être positionné forcément sur du mot-clé, même si on peut le faire, par exemple guide d'achat pour choisir tel truc. Mais le but, en fait, c'est d'avoir un contenu de référent qu'on va pouvoir faire buzzer. Et comme je disais, ces fameux process de buzz que je détaillais auparavant, c'est-à-dire que quand j'ai un super contenu, eh ben par exemple, je vais le relayer sur ma newsletter, je vais citer des gens qui sont connus dedans, des blogueurs, ça peut être aussi des gens qui, des magazines, des choses comme ça, en disant tiens voilà, j'ai relayé votre contenu, enfin, ça peut être des experts dans un domaine d'activité que je vais interviewer, enfin bref, ce contenu d'expert doit être fait donc bien sûr pour avoir vraiment un super contenu, mais après je dois prévoir la technique de promotion, comment je vais pouvoir attirer des gens derrière et comment je vais pouvoir le valoriser en utilisant différents canaux, différentes plateformes. Voilà. Alors par contre c'est un vrai boulot, hein, c'est du temps. Et comme tu disais, les commerçants n'ont pas forcément le temps de le faire, donc ils peuvent le déléguer à une personne, à un community manager, c'est possible. Mais après, pour réaliser du super contenu, j'ai plusieurs techniques. Moi, par exemple, tu vois, j'utilise beaucoup mon iPhone. Enfin, c'est plus un iPhone maintenant, d'ailleurs, c'est un Samsung. Et j'ai une application native qui s'appelle tout simplement l'enregistreur vocal. Voilà, l'enregistreur vocal de l'iPhone. Tac. Enfin, de l'iPhone du smartphone. Donc en fait, moi quand je suis en fait de chez moi au métro, j'ai à peu près 7 minutes de trajet. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis à pied et que je suis un peu en forme, parce que parfois je suis un peu fatigué auprès de ma journée ou le matin, je pense à autre chose. Mais quand je suis en bonne forme, en fait, tu vois, je prends mon téléphone et tac, je parle et je dis ben voilà. Aujourd'hui, on va parler de ceci, cela, blablabla, et je déroule en fait une thématique en fait. Et j'ai fait pareil avec certains de mes clients qui me disent non mais j'ai pas le temps d'écrire un article. Et ça, je m'en rends compte. Un e-commerçant normalement, il a pas le temps. Et donc qu'est-ce que je fais? Ben j'essaie de le bloquer pendant une heure. Et pendant une heure, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le téléphone, je le mets à côté de lui, puis je lui dis ben voilà. Alors tu vas me parler de comment choisir une paire de baskets Stan Smith. Alors là, le mec tout de suite il dit, bah, choisir une basket Stan Smith, bah, il faut faire ci, il faut faire ça, blablabla. Et voilà, je dis, bah, là, on fait ça pendant, à peu près, 2-3 minutes. Et voilà, tac, t'as un article, t'as plus qu'à se faire retranscrire en externe. Tu peux encore utiliser des prestataires externes sur redacteur.com, freelance.com, ou fiverr.com. Et tu trouves un mec qui va te prendre ton audio, il va t'en faire un article, et après, t'as plus qu'à faire une certaine mise en page, en fait, de ton contenu. Et moi, c'est ce que je fais pour tous mes gros articles maintenant. Je ne fais plus de... Je fais de temps en temps, mais généralement, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de défricher le terrain avec de l'audio sur un contenu. Donc j'ai sur mon téléphone en fait ma prise de notes avec une structure. Donc, je me dis bah tiens, je vais parler de ça. Et après je parle. Et ensuite après je fais transcrire et j'ai ma trame et j'ai plus qu'un peu à mettre en forme, remettre des trucs. Et ça me permet d'écrire des très gros articles en assez peu de temps en fait, parce que en 7 minutes de parole, tu peux en dire des choses.
Et
surtout qu'il y a une structure. Hein. Il y a une structure qui est la structure des 7 W. C'est-à-dire que tu dis when, why, where, how, how much. Donc c'est qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui et combien. Grosso modo, hein, c'est toutes les questions classiques. Et quand tu réponds à toutes ces questions dans un podcast, normalement, bah, t'as accusé le sujet.
D'accord. Ok. Ouais, après, moi, pareil, dans les moyens de faire des articles qui peuvent très bien marcher, c'est justement, bah, t'as pu traiter, faire des petits articles, des vidéos, des petits podcasts sur des sujets, donc t'as traité juste un sujet, et au final, si t'as fait une dizaine de podcasts, bah, parmi ces podcasts, t'en as peut-être 5 qui vont parler d'une thématique complète, et il suffirait de les réunir, de remanier un petit peu le truc, et t'as un article bien complet sur un sujet, par exemple, je sais pas, t'as présenté des outils, dont certains sur les réseaux sociaux, et à un moment, tu peux faire récupérer tous les outils dont tu as pu parler dans des vidéos et expliquer que comment gagner du temps sur les réseaux sociaux, etc. Moi, ça m'arrive de faire ça. Et voilà, j'ai un article que tu connais parce que tu l'avais partagé, c'est 29 outils SEO gratuits. Au final, j'ai tout simplement récupéré les outils que j'utilisais, les outils que j'ai déjà vu pas mal de fois que j'utilisais pas, donc j'ai testé vite fait. Et j'ai demandé, je t'avais demandé à toi et à quelques autres personnes s'ils avaient des outils. Et voilà, et sur les 29 outils, j'ai dû en chercher moi-même, que je connaissais pas, j'ai dû en chercher 5, quoi. Je les connaissais tous d'une manière ou d'une autre. Donc, et cet article-là marche pas mal et il est assez long. Et c'est vrai que du coup, il n'a pas été très long à rédiger, en fait, comme article.
Ouais. C'est pour ça que c'est important de dire que tu as vraiment deux types de contenu. Tu as le contenu SEO pourri, qui marchouille encore. Comme je disais, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est pas avec un article de 250 mots que tu arriveras à te positionner, sauf si c'est une expression à faible trafic. On l'a vu tout à l'heure, là, tu vois, avec e-commerce, tu vois ici la difficulté du mot-clé. Hein, il est ici. Hein, donc là, tu vois si c'est dur ou pas. Et donc, tu peux t'amuser comme ça à dire, OK, sur les petits trucs, je vais pouvoir faire quelque chose. Sur des gros mots-clés, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, tu fais plutôt un article de qualité, tu cites des influenceurs dedans, tu demandes un relais, tu vas sur Twitter faire la promo. Alors, bien sûr, Twitter, encore une fois, pour l'e-commerce, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur outil. Les outils comme Facebook sont parfois beaucoup plus intéressants, et sont souvent même plus intéressants. Il faut se méfier, comme tu l'as dit, il faut faire attention au temps. Les médias sociaux, c'est bien, un blog, c'est bien. Mais le cœur de business, tu l'as dit tout à l'heure, pour un e-commerçant, c'est de générer du prospect, du lead. Et le SEO, les médias sociaux, c'est plus sur le long terme. Par contre, ce qui est bien, par exemple, t'as notre ami Rémi Bigot, que tu connais, de la Fée Corsetée. Sa femme, en fait, elle est dans le domaine des vêtements sur mesure, Fée Corsetée, voilà. Elle est dans le domaine vraiment du sur-mesure, de la valeur ajoutée, elle a peu de clientes, blablabla. Donc c'est pas le volume. Mais en fait, tu vois, elle utilise ça pour rencontrer ses clients. Toi, osez-vous venir à ma rencontre, 13 au 31 octobre, je crois qu'elle fait un tour de France, tu vois, et elle montre en fait les coulisses de sa boutique, elle montre des réalisations, elle montre ses clientes qui sont super contentes. Tu vois, ça c'est un vrai, toi elle met de la vidéo native, toi elle a quand même 500 commentaires quoi. C'est, toi 500 commentaires, c'est énorme quoi. C'est énorme. Ouais. Même moi, tu vois, j'ai pas ce niveau-là parce que moi, Facebook, je l'utilise plus comme un relais d'information. Elle, Facebook, elle l'utilise véritablement comme un pour avoir du lien avec ses clientes. Elle discute avec elle parle avec elle montre des réalisations, elle montre ses clientes, elle monte son atelier, tu vois, c'est un bel usage, je pense que c'est un usage intéressant et à prendre un exemple pour un e-commerçant sur comment je vais faire ça. C'est vraiment, tu vois, regardez, si en plus tu as des photos de mariage, qui sont, c'est parce que c'est sa thématique à elle. C'est vraiment, c'est un bon usage.
L'exemple, il est vraiment parfait parce que, voilà, faut vraiment tester et réfléchir où se trouvent nos clients parce que autant toi comme moi, on a tous les deux une seule page Facebook. Moi, elle est relativement automatisée et c'est pas ma stratégie pour l'instant, mais de toute façon, on sait pertinemment que nos clients ne sont pas vraiment sur Facebook. Il y a un côté, personnel dans Facebook qui fait que le B2B est pas vraiment, c'est pas vraiment la place du B2B. Et là, justement, au contraire, là, on va parler de mariage, etc. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de partager cette info-là sur Facebook. Et du coup, évidemment, elle a tout intérêt à travailler Facebook et une stratégie comme elle fait là où elle. Elle est proche de ses clients et d'utiliser Facebook pour ça. Et ça se voit que ça marche, parce que j'ai vu, elle a pas mal de fans, et chacune de ses publications a quand même un bon résultat. Donc, c'est clair que il faut.
Ouais, tu vois là, par exemple, elle offre un cadeau tous les mois. Tu partages, tu likes, tu fais un machin, bam, t'as le droit à un petit cadeau. Toi, toi, elle peut offrir, comme elle est productrice, elle peut très bien offrir une broche, elle peut très bien offrir un truc. Et là, directement, tac. Et tu vois, elle met du liant, c'est assez intelligent. En fait, Rémi, ça va être là, et sa femme, ils font un bon boulot. Toi, elle montre les tissus. Alors, je sais plus tous les combien de temps elle publie. Mais, tu vois, c'est, tu rentres, en fait, dans l'intimité, puis tu partages la vie de la créatrice. Et, en fait, ça permet d'humaniser une marque. Parce qu'en fait, c'est une erreur que font souvent beaucoup des commerçants. Et c'est vrai que, en fait, ils veulent faire comme si c'était une multinationale. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Les gens, en fait, achètent pas à des machines, ils achètent à d'autres gens. C'est l'émotion qui déclenche la vente. Et c'est vrai que moi, sur mon blog, tu vois, pendant longtemps, tu vois, mon blog, c'était une passion. Et tu vois, j'avais comme objectif de dire, tiens, je vais créer le site et je vais le vendre un jour. C'est pas mon métier, quoi. Et puis, en fait, finalement, c'est devenu une passion. Et il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais conseil marketing, vous êtes combien dans l'équipe, etc. Mais moi, je suis tout seul. Et donc, j'essaye de m'humaniser un peu plus. Alors, c'est même dans les blogs et dans les fiches produits, il faut essayer de mettre de l'émotion. Maintenant, tu vois, je dis pas je, mais j'essaie quand même de le mettre de plus en plus. Là, par exemple, tu vois, dans le dernier truc, j'ai dit j'apparais dans une vidéo, machin, etc. Donc, c'est essentiel d'humaniser et pas de vouloir faire la world company parce que un e-commerçant qui fera ça il va perdre toute l'humanité là par exemple là dans la dernière ici là je dis j'apparais dans le truc je suis présent blablabla donc c'est vraiment essentiel de faire ça, c'est vraiment important de montrer qu'on est une personne, qu'on n'achète pas à une world company, surtout quand on est une petite boîte. C'est vraiment s'il y a une chose qui est importante de retenir, c'est ça, toi. Jordan, nos ouvrières étaient nécessaires dans cet épisode, vous me verrez dans le rôle du conseiller Pôle emploi, blablabla. Donc c'est vraiment important de faire ça, de montrer qu'on est une personne, et sur tous les sites e-commerce, moi j'incite vraiment les gens à montrer des photos de leur tête, etc. Ça donne plus confiance déjà, et puis c'est comme t'achètes à des personnes qui sont en face de toi, plus que t'achètes du prix.
Et en plus, quand on veut essayer de jouer directement, on va dire, dans la cour des grands, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en gros, on est tout petit et qu'en face, on va vouloir frotter à Amazon, eBay, Cdiscount, etc. Qui, eux, sont gros et si on veut avoir l'air d'être comme eux, malheureusement, ça veut dire qu'on va les avoir en concurrence et que du coup, on va essayer de discuter, de s'exprimer comme eux, etc. Mais on n'a pas les mêmes moyens et on ne pourra pas lutter contre Amazon, surtout quand on se lance au départ. Moi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre à pas mal de mes commerçants. J'ai une e-commerçante qui fait du personnalisé, donc c'est des produits personnalisés pour bébé, etc. Et le discours qu'elle avait au départ, c'était on avait l'impression de l'avoir...
Exactement.
Alors qu'elle vend du personnalisé. Et c'est, pour moi, ça va à l'encontre de l'idée de ces produits, de vendre quelque chose de personnalisé, etc. On a envie de savoir qui est derrière, que c'est cette personne-là, et que et que,
qu'elle est passionnée, qu'elle est à l'écoute, qu'on peut l'appeler. C'est exactement ça. Toi, c'est comme comme on vient de voir avec Glacier Corseté, c'est exactement la même chose. C'est je suis là, je suis une personne, vous pouvez me demander, c'est pas la World Company, on n'est pas un atelier de 50, c'est je fais pour vous, je vous écoute, on passe du temps au téléphone, blablabla. Quoi.
Ok, super. Bon, alors, du coup, on a parlé tellement de choses que j'avais prévu des